Bonsoir. Merci d'être là pour cette suite à nos aventures. Nous avions laissé Freud la dernière fois aux guérisons de papier, ce que j'appelais des guérisons de papier, puisqu'il y a eu une forte opportunité pour les psychanalystes d'associer un certain nombre de cas, 5 en l'occurrence, 5 cas, pour montrer que Freud était susceptible de soigner et de guérir toutes les affections ou toutes les pathologies possibles ou imaginables, des cas de paranoïa, des cas de névrose, des cas d'hystérie, des cas de phobie, etc. Et je vous avais dit, j'avais conclu la dernière séance là-dessus, que Freud disait toujours qu'il avait soigné et qu'il avait guéri. J'avais pris soin d'extraire des moments du texte, j'avais cité donc très précisément pour vous dire que à chaque fois, il avait soigné, guéri, en prenant soin de vous dire que pour le président Schreber, il ne l'avait jamais rencontré, mais qu'il avait résolu l'énigme et que s'il avait dû le soigner, il l'aurait évidemment soigné. Je souhaiterais dans cette séance entrer un peu dans le détail de ces analyses. Petite considération sur le principe du préambule, sur la confidentialité. Il faut se remettre dans la configuration de l'époque. Vienne est une petite ville, les gens sont connus. Vous savez qu'avec l'argent que Freud prend pour une analyse, tout le monde ne peut pas s'y trouver. Et quand vous avez écrémé la population, vous avez fait savoir que vous n'aviez ni envie ni besoin des pauvres dans votre cabinet, que des intellectuels c'était plutôt bienvenu. À l'évidence, dans une petite ville comme Vienne à cette époque-là, on sait qui peut être le patient de Freud et les choses peuvent aller vite. On peut faire savoir si on est imprudent qui vient sur le divan de Freud et surtout pour y dire quoi. Par la suite, vous avez des cas, je vous ai dit qu'ils étaient racontés de manière anonyme, ils étaient anonymés d'une certaine manière et qu'on n'y voyait pas apparaître le nom propre de la personne, mais souvent vous aviez une espèce de façon de brouiller les pistes qui était quand même pas très importante, enfin le brouillage n'était pas très important au point qu'on était capable de reconnaître souvent telle ou telle personne à l'époque. Qu'est-ce que Freud pensait de ça? Qu'est-ce qu'il disait sur ces histoires de confidentialité? Dès le départ, dans le premier cas, il fait une espèce de petit préambule où il nous dit qu'en fait, peu importe l'avis des cas sur l'opportunité de porter à la connaissance du public les aventures libidinales de tel ou tel, c'est pas très intéressant de savoir ce qu'en pense le patient puisque cette aventure, c'est une aventure scientifique et que lui travaille pour la science. Vous avez déjà eu l'occasion de voir, je vous ai apporté quelques citations, que Freud ne tient pas en haute estime les patients qui sont en fait des clients. Il nous dit que ce sont les patients, c'est de la racaille. Donc effectivement, on a là une espèce de gibier chassé par Freud, ponctionné par Freud. Ce qui importe, c'est la fabrication de son aventure, la fabrication de sa discipline qu'il présente comme une science. Il ajoute qu'il est un conquistador aussi. Et le conquistador, c'est un personnage qui ne s'embarrasse pas de morale. C'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui doit conquérir une terre inconnue et qui ne va pas faire de morale dans cette aventure, il avance point à la ligne. Et on va voir comment Freud procède parce que les indiscrétions, les trahisons de secrets professionnels sont abondants dans la vie de Freud et même les gens qui ont écrit sa biographie, qui sont des hagiographes à l'époque, font savoir qu'effectivement il n'est pas très sérieux sur ce terrain-là et qu'il donne de temps en temps des détails reconnus par tout le monde ou quand il n'est pas franchement en train de révéler les aventures claires et précises de tel ou tel à tel ou tel autre. Et on verra pourquoi et comment et dans quelles circonstances. Quand il aborde le cas d'Aura, qui est le premier des cas des fameuses 5 psychanalyses, il dit, ouvrez les guillemets, « communiquer publiquement ce qu'on croit savoir de la causation et de l'agencement de l'hystérie devient un devoir, s'en abstenir, une lâcheté déshonorante, pourvu qu'on puisse éviter le dommage personnel direct infligé à tel malade. » Donc on voit bien ce qu'est la proposition de ce fameux scientifique qui se comporte comme un conquistador. Il a des informations intimes, privées. Les gens ont l'honnêteté, quand ils s'allongent sur son divan, de tout dire, puisque c'est la proposition psychanalytique, comme vous le savez. Donc vous racontez tout, les fantasmes, les histoires, les douleurs, les souffrances, l'histoire de votre âme, les rapports au père, les rapports à la mère, les rapports à l'enfance, votre sexualité, défaillante ou pas, les modalités de votre sexualité, vous racontez tout ça et vous avez normalement quelqu'un qui garde ça pour lui. Freud nous fait savoir que quand il s'agit de fonder sa discipline ou d'illustrer sa discipline, il faut parler, il faut raconter. Il nous dit que c'est un devoir et s'abstenir de faire savoir, c'est une lâcheté déshonorante. Donc là, la chose clairement dite, trahir un secret, c'est un devoir et garder le secret, c'est une lâcheté. C'est pas une seule fois ce propos. C'est peut-être la première fois qu'on le voit, mais ce n'est pas la seule fois dans l'œuvre. Régulièrement, Freud nous le fait savoir, par exemple, dans « Contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique », il rédige une petite note et il aborde la question des réserves qui sont émises par le patient. Un patient qui pourrait dire qu'il n'est pas d'accord qu'on l'utilise comme une espèce de gibier, et il répond ceci. « Je me sers de sa communication sans solliciter son assentiment parce que je ne puis admettre qu'une technique psychanalytique puisse prétendre être protégée par la discrétion. » C'est du corpus théorique. Ça n'est pas de la correspondance. On se retrouve là avec un ouvrage qui est présenté par Freud comme une espèce de somme. Et de fait, un nombre considérable de gens verront par la suite dans leur existence la trahison régulière du secret professionnel qui devait animer le psychanalyste. Une troisième fois, dans Psychopathologie de la vie quotidienne, il écrit une phrase étonnante. Il s'agit du cas d'Aura, dont j'ai eu l'occasion de vous parler. On va revenir sur ce cas-là tout à l'heure. Et elle rejoint la cohorte. Alors, c'est une citation « Des pauvres gens qui ne peuvent même pas garder leur nom ». C'est une drôle de phrase, ces pauvres gens qui ne peuvent même pas garder leur nom. Et il écrit un petit peu plus loin, « Lorsque, ensuite, je cherchais un nom pour une personne qui n'avait pas le droit de garder le sien propre, aucun autre me vint à l'esprit que Dora. » Et on sait que Dora, c'est le prénom d'une domestique de sa sœur. C'est pas inintéressant de savoir que quand il est tenu de cacher l'identité réelle d'un individu, eh bien, il cherche un prénom de domestique, et qu'il donne le prénom de domestique à cette femme pour pouvoir raconter son histoire ou son aventure. C'est la science qui commande, et ce n'est pas le patient. Il s'excuse d'une certaine manière en disant que le cas a été publié de manière différée, le cas d'Aura, dans une revue confidentielle, et avec un anonymat respecté, et puis il ajoute que de toute façon la patiente est guérie. Les revues ne sont pas si confidentielles que ça, elles circulent, d'autant qu'il s'exprime en public, il raconte des cas, il rapporte des cas, puisque la construction de sa discipline, elle se fait sur ces cas qui sont des fabrications. J'ai eu l'occasion de vous dire la dernière fois qu'il composait ses histoires en ramassant un certain nombre d'informations susceptibles d'être cliniques, mais d'autres informations qui procèdent aussi éventuellement de la pure affabulation. Il imagine que ça doit être comme ça. Pour le bien fondé de son histoire, il raconte l'aventure comme ceci. Et si les gens ne sont pas d'accord, c'est pas le problème des gens, il s'agit de convaincre. Donc peu importe la vérité, la véracité, la vraisemblance, le respect de l'histoire, le respect du patient. On est cette fois-ci, et une fois encore, et comme toujours, dans l'idée que la fiction est supérieure à la réalité et que la fiction freudienne est toujours supérieure à la vérité historique du monde. Il écrit, dans Psychopathologie de la vie quotidienne, « Naturellement, je ne puis empêcher que la patiente elle-même n'éprouve une sensation pénible si sa propre histoire de malade devait, par hasard, lui tomber entre les mains. Mais elle n'apprendra rien qu'elle ne sache déjà, et elle pourra bien se demander qui d'autre qu'elle pourrait y apprendre qu'il s'agit de sa personne. » Assez rapidement, on sait bien que quand les usages publics sont faits de ces histoires et que Freud raconte dans des congrès, dans des réunions d'analystes, qui est quoi, qui fait quoi et comment, eh bien, assez rapidement, l'anonymat se trouve trahi et on sait de qui il s'agit. Freud raconte des choses intimes dans les correspondances. On peut imaginer qu'après tout, la correspondance est du domaine privé et qu'il n'était pas censé imaginer qu'on les publierait un jour. Mais on sait par exemple qu'il a analysé les maîtresses de Jones, Ernest Jones, dont j'ai eu l'occasion de vous parler déjà en vous disant qu'il était le grand hagiographe, le premier auteur d'une biographie légendaire qui a fait la loi pendant des années et qui l'a fait encore beaucoup. Et puis de Sándor Ferenczi, dont je vous ai parlé aussi en vous disant que dans ce fameux journal clinique, il nous rapportait ce propos de Freud qui disait que les patients, c'est de la racaille. Et donc, il a analysé les maîtresses de ces deux hommes-là et il a rapporté les détails intimes, libidinaux, de la vie sexuelle de ces deux femmes-là qui s'étaient confiées à lui. Et puis, on le sait aussi, ces informations qu'il obtient sur tel ou tel, puisque vous savez que Freud fait savoir que l'analyste ne peut être analyste que s'il a été analysé, en l'occurrence par quelqu'un qui aura été lui-même analysé, donc à l'origine c'est lui, il les analyse tous et toutes. Mais il y a des moments où, quand il a tout appris d'un être, parce que l'être s'est franchement libéré et que cet être-là est devenu un ennemi, eh bien il fait un usage public des informations qu'il a obtenues sur le divan concernant tel ou tel. Voilà une petite précaution d'usage pour vous faire savoir que, à l'époque, on découvrait assez facilement qui se cachait derrière tel ou tel nom et que par la suite, il aura été facile aux historiens de la psychanalyse, les vrais, j'entends, pas les gens qui se prétendent historiens et qui maintiennent la légende, mais les gens qui vont vraiment travailler pour savoir qui a fait quoi, qui était quoi, comment les choses se sont passées, aller prendre l'avis de quelqu'un qui aura été analysé. À partir de ce moment-là, effectivement, on découvre que Freud a dit qu'il avait guéri tout le monde tout le temps, alors qu'il n'a guéri personne. On va prendre les cas les uns après les autres et je vais examiner les fameuses 5 psychanalyses, puisque c'est un ouvrage fondateur qui se présente comme tel, dans lequel on aura ramassé, parce que ça n'a pas été pensé comme tel au départ par Freud, qui avait rédigé des cas à part, puisqu'il a beaucoup écrit d'articles et assez peu de livres en tant que tel, et les livres ont souvent été fabriqués avec des réunions d'articles, et les réunions de ces 5 cas se présente d'une certaine manière comme 5 évangiles. Vous savez que l'évangile, étymologiquement, signifie la bonne parole, et on vous apporte la bonne parole, et de fait, ces histoires sont présentées comme telles. Le premier, donc, le cas d'Ora, est censé illustrer l'hystérie. Le texte qui renvoie à l'histoire de Dora, ou qui rapporte l'histoire de Dora, s'appelle « Fragment d'une analyse d'hystérie », et c'est publié en 1905. Il s'agit du cas d'Ida Bauer, le cas réel, je dirais, et l'analyse a duré exactement 11 semaines entre octobre 1900 et le 31 décembre de la même année, 1900. En 1900, quand elle rencontre Freud, elle a 18 ans, elle est présentée par son père. Il nous fait savoir dans son œuvre aussi, Freud, qu'il faut venir par soi-même et que quand on est présenté par quelqu'un, l'analyse a du mal à fonctionner véritablement. Le père, il connaissait Freud pour avoir été soigné à l'époque où Freud n'était pas encore psychanalyste, mais où il était neurologue, pour les suites d'une syphilis. C'est un homme d'affaires, il était tuberculeux, il couche avec une femme qui, elle, est mariée avec un monsieur qui est son ami. Et ce monsieur, vous comprenez, là, c'est classique, je veux dire, et ce monsieur, il fait des avances à la jeune fille qui s'appelle Dora. À 14 ans déjà, elle a refusé ses avances sexuelles et elle a giflé l'homme en question. Et c'est lui qui dira qu'elle lui avait fait des avances. Et il lui invente des lectures libertines en faisant savoir que de toute façon, une jeune fille qui lit des cochonneries pareilles ne peut pas ne pas se comporter autrement que comme ça. Voilà le cas, l'histoire telle qu'il est racontée. Les symptômes sont précis, elle souffre de tout, d'une extinction de voix, de dépression, d'irritabilité, elle est suicidaire et elle a des migraines. Freud nous fait savoir, vous savez comment il fonctionne, pas d'examen clinique, il ne veut pas savoir ce qu'est le corps. Il y a quelques symptômes, et les symptômes font la démonstration que quelque chose a eu lieu. Ce quelque chose, je vous renvoie à l'étiologie sexuelle des névroses, eh bien, est toujours en relation avec un traumatisme sexuel, et le traumatisme sexuel est la plupart du temps en relation avec le complexe d'Œdipe. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Il ne vient pas à l'idée qu'une jeune fille de 14 ans, qui a été presque abusée, je dirais, par un homme qui a l'âge de son père, puisse être angoissée, nerveuse simplement parce que c'est angoissant de savoir qu'un homme qui est un familier de la maison peut venir vous faire des propositions sexuelles, faire des avances sexuelles, et que vous pouvez effectivement avoir du mal à supporter ce genre de choses-là. Non, Freud dit, voilà, elle est hystérique. C'est-à-dire une jeune fille de 14 ans qui refuse les avances d'un cinquantenaire, pour Freud, c'est le signe qu'elle est hystérique. Ça renseigne sur Freud, je dirais quand même un peu, et lui, il donne une interprétation. Et là, je fais la synthèse du cas qui est assez long et assez longuement raconté, donc je vais vite, mais il nous fait une synthèse et il nous explique ce qu'est véritablement le problème de cette jeune fille. Elle a la gorge nouée, pas de problème, elle avait le désir d'une fellation. Elle tripote son porte-monnaie compulsivement, on peut imaginer qu'elle est un petit peu nerveuse, Freud dit pas de problème, ça signifie des activités masturbatoires débordantes. Donc faites attention quand vous tripotez votre porte-monnaie, on pourrait comprendre. Elle a des difficultés respiratoires, on pourrait imaginer qu'elle est angoissée, qu'elle est inquiète. Non, c'est pas ça du tout. Freud nous dit qu'elle répète les allaitements de ses parents qu'elle a surpris dans la copulation. Pour essayer de comprendre comment les choses fonctionnent un peu, il sollicite un rêve. Il lui demande si elle a un rêve à lui proposer. Vous vous souvenez de l'aventure freudienne, c'est-à-dire l'histoire condensation-déplacement et présentation, c'est-à-dire que quand vous avez un rêve, la plupart du temps, il est l'occasion de condenser un certain nombre de choses qui vous seront arrivées à l'état de veille. On aura l'occasion aussi de déplacer ce qui vous sera arrivé dans l'état de veille, et vous aurez une présentation nouvelle de cette aventure qui dissimulera la réalité en tant que telle. Donc, immanquablement, Il vous suffira de faire fonctionner la pensée symbolique et de dire qu'une chose n'est pas ce qu'elle est, mais qu'elle signifie autre chose. Et à ce moment-là, libre à vous, évidemment, de faire savoir que, pour le rêve en question, il nous fait savoir à la jeune fille qu'elle rêve d'une boîte à bijoux qu'il lui faut sauver d'un incendie. On pourrait effectivement imaginer que la boîte à bijoux, c'est pas compliqué, c'est la sienne, ce sont ses bijoux de famille, et que l'incendie, la menace de l'incendie, c'est le monsieur en question. On peut imaginer que c'est aussi clair que ça, sans qu'on ait besoin d'aller chercher les choses ailleurs ou autrement. Eh bien, Freud, lui, voit dans ce rêve en particulier, l'idée qu'il faudrait sauver sa boîte à bijoux d'un incendie, un désir inconscient de coucher avec le vieil homme. C'est-à-dire très exactement l'inverse. On peut imaginer qu'elle a peur de cette sexualité possible, et Freud dit qu'elle désire cette sexualité possible. Freud nous dit qu'il l'a guérie après l'analyse, et qu'elle s'est mariée, qu'elle s'est détachée du père, et qu'il n'y a pas eu de problème, l'affaire est réglée, puisque ce sont toujours des happy ends chez Freud. Il soigne, il guérit, et tout se termine toujours très bien. Or, c'est faux. On sait que ça ne s'est pas passé comme ça, et qu'un an et demi après cette interprétation, qui a l'avantage, je dirais, de culpabiliser la victime et d'innocenter le coupable, Freud nous fait savoir que quand elle revient avec une névralgie faciale, eh bien, ce qu'elle signifie avec cette névralgie faciale, c'est un remords tardif, parce qu'elle regrette la gifle qu'elle a donnée. Elle a giflé ce monsieur qui lui fait des avances sexuelles, ce vieux monsieur qui lui fait des avances sexuelles, et Freud dit « elle regrette sa gifle ». Et comme elle regrette sa gifle et qu'elle a un remords tardif, elle arrive avec, évidemment, des névralgies faciales. Voilà. Ce qui a l'avantage, évidemment, de confirmer son propre diagnostic d'hystérie. Et Freud ajoute qu'en plus de ça, il vient d'être nommé professeur, la chose a été dite un petit peu partout dans la presse, et Dora n'a pas pu ne pas voir l'information. Et puisqu'elle n'a pas pu ne pas voir l'information, eh bien, évidemment, elle a transféré l'agressivité qui était destinée à l'ami de son père à l'endroit de Freud lui-même. Et donc, quand elle arrive avec une névralgie faciale, elle l'agresse, c'est ce qu'il faut comprendre, elle l'agresse, et elle l'agresse parce que, finalement, il est devenu professeur. J'espère que vous suivez, parce que c'est effectivement une interprétation qui en dit plus sur l'interprète que sur le cas. C'est vraiment une interprétation dans laquelle on voit Freud tout entier, avec ses propres obsessions, avec ses propres fantasmes, avec ses propres désirs, et on voit qu'un personnage qui est censé soigner et guérir est un personnage qui devrait se soigner, avant de prétendre qu'il pourrait soigner et guérir les autres. Dora n'est évidemment pas contente de ce genre d'interprétation, et elle met fin d'autorité à l'analyse le 31 décembre 1900. On croit savoir que Freud n'a pas beaucoup aimé, d'une part, que cette jeune fille résiste à son analyse, et d'autre part, qu'elle mette fin elle-même à l'analyse. Vous vous souvenez, hein, 450€ la séance, on n'est pas très content quand les clients claquent la porte. Et effectivement, théoriquement, eh bien, il a rédigé le cas Dora avec les fantasmes qui sont les siens, avec les libertés qu'il prenait régulièrement. Et le directeur de la revue à qui il proposait ce texte a refusé deux fois le texte sous prétexte qu'il trahissait le secret médical, pour vous dire donc que c'était assez visible pour quiconque vivait dans la Vienne de cette époque, et effectivement, on pouvait reconnaître sans difficulté, parce que Freud a probablement assez mal masqué ce qu'il aurait dû masquer, et qu'il a profité de cette aventure pour se venger de l'affront qui lui était fait. Deux ans plus tard, la jeune fille est devenue atrabilaire, elle boite, elle est affligée de vertiges de Meynière, elle a des troubles digestifs chroniques qui sont négligés. On constate qu'il y a un cancer du côlon et qui, diagnostiqué trop tard, la conduira à la mort en 1945. Voilà le cas Dora. C'est-à-dire que c'est un cas qui est censé montrer que Freud est censé guérir les hystéries. 1905, fragment d'une analyse d'hystérie, c'est le premier travail qui permet à Freud d'expliquer qu'il est un homme extraordinaire. Quand il a fini la rédaction de ce cas, il écrit à Fliss, le 25 janvier 1901, « C'est la chose la plus subtile que j'ai écrite jusqu'ici, et elle produira un effet encore plus rebutant que d'habitude. » Je vous laisse la phrase. Hein. Effectivement, c'est très subtil, et l'effet rebutant est évident. Deuxième cas, c'est un cas classique aussi, hein, puisque ce sont les cas emblématiques, les cas archétypiques, qui permettent aujourd'hui de dire « Freud a soigné, il a guéri, la preuve, Dora, le petit Hans, etc. » Le petit Hans, lui, est censé illustrer la psychopathologie qu'on nomme la phobie, la peur, la crainte, l'angoisse à l'endroit de quelque chose. Je veux dire quoi tout à l'heure. Le texte en question, l'analyse de la phobie d'un garçon de 5 ans, il paraît en 1908 et il concerne Herbert Graff. Et la durée, eh bien, ça a duré quelques instants en 1908. C'est-à-dire, il y a à peine eu des séances à proprement parler. Herbert Graf, le petit garçon, en 1907, est le fils d'un musicologue et d'une comédienne. Et Freud nous dit de ces deux personnes que ce sont ses plus proches disciples. Le personnage en question, le père, le musicologue, est aussi psychanalyste, il est aussi analyste, il assiste aux séances du mercredi. Il note les rêves de son fils, se soucie de son évolution, les petits cahiers sur lesquels il raconte comment évolue la psyché de cet enfant. Il guette tous les mots, l'arrivée de tel ou tel vocable ou syntagme, mais il est très proche de cet enfant. Et les parents l'ont éduqué selon les principes freudiens, c'est-à-dire pas de frustration, pas de traumatisme, pas de répression. C'est du moins l'idée qu'on se fait à l'époque. Quand on a lu Freud, on se dit effectivement, l'éducation est assez problématique, on connaît cette histoire. Une femme aurait écrit une lettre à Freud et lui aurait dit « Je suis enceinte, j'attends un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éduquer un enfant correctement ?» Il dit « Faites n'importe quoi, de toute façon ce sera mauvais. » Alors il n'y a pas de lettre, c'est pas vrai, c'est une histoire qu'on raconte et qui est fausse en tant que telle, mais vraie dans la mesure où elle renvoie un petit texte de Freud qui nous dit qu'il y a trois choses vraiment impossibles à faire, psychanalyser, gouverner et éduquer. Donc là on pense qu'une éducation sans traumatisme, une éducation sans castration, a priori, eh bien, ça doit produire des effets extraordinaires. Et tout au départ, l'éducation du petit Hans s'est présentée comme une éducation modèle. Disons, voilà, des parents extraordinaires. Et si, et Freud l'a fait savoir à plusieurs endroits de son œuvre, si, en prenant en considération la psychanalyse pour éduquer autrement et différemment les enfants, on aurait beaucoup moins de névroses, nous dit Freud. Il se fait qu'il y a quand même des petites histoires qui permettent par la suite d'expliquer pourquoi un enfant qui a été si génialement éduqué devient un cas analysé, et assez tôt et assez rapidement. Et on apprend à ce moment-là que, face à un moment où le petit garçon se masturbe, parce que pour Freud c'est tout le temps, c'est en permanence, et la réponse des parents c'est toujours aussi la castration. Donc il y a un moment où effectivement il doit se tripoter plus ou moins, et la mère menacerait donc de faire venir le médecin pour lui couper le fait oui-oui. Et le fait oui-oui, c'est la nouvelle traduction, pour vous dire qu'elle est très intellectuelle. En fait, vous pouvez mettre fait pipi à la place, c'est plus clair. Et voilà, si elle lui coupe son fait pipi, quoi. Sa caquette, son zizi, hein, si vous voulez même une interprétation. Et puis, il y a un deuxième moment où, effectivement, on peut traumatiser les enfants. La première, donc, vous tripotez le zizi et on vous dit qu'on va vous le couper. Et puis la deuxième, quand la petite sœur arrive et qu'on vous fait savoir que c'est la cigogne qui l'a apporté. Le petit Hans a un problème, il a peur d'être mordu par un cheval. C'est sa crainte. Et c'est phobique, il a peur de la chute des chevaux, et il évite tous les endroits où on rencontre des animaux. Il faut imaginer Vienne à l'époque, évidemment, comme un endroit où vous ne pouvez pas vous déplacer sans voir des animaux. Vous avez des chevaux sont des animaux de traction pour tout, donc que ce soit pour se déplacer de manière privée, professionnelle, pour se déplacer les artisans, les commerçants, enfin tout le monde, il y a des chevaux partout dans Vienne. Et c'est difficile, quand on a peur des chevaux, de sortir dans les rues de Vienne et qu'on ait un petit garçon. Au zoo, nous dit Freud, il est fasciné par le sexe des éléphants et des girafes. Il trouve monstrueux et les parents lui disent que, attention, les sexes sont en rapport avec, je vous le dis pour les hommes, pour que vous, et puis les dames aussi, ça peut vous être utile, mais c'est en rapport avec le format du mammifère. On fait savoir à l'enfant qu'il ne faut pas extrapoler. Alors évidemment, il faut essayer de savoir d'où vient le problème, pourquoi cet enfant est phobique, pourquoi est-ce qu'il a peur des chevaux. Et il se fait que, interprétation de Freud, le père a une magnifique moustache. Eh bien, une moustache, c'est une muselière, et ça lui fait penser à la muselière. Donc, le père de Hans a une moustache, c'est l'équivalent d'un cheval avec une muselière. C'est-à-dire que si vous avez peur du cheval, c'est que vous avez peur du père. Et pourquoi vous avez peur du père? Parce que vous avez le désir de vous unir à la mère, et que le père, il ne veut pas que vous vous copuliez avec votre propre mère. D'où la menace de castration. Vous avez compris? C'est pourquoi il a peur des chevaux. Voilà. Et s'il y a phobie, c'est parce qu'il y a crainte de castration. La peur de la morsure du cheval, c'est la crainte de la castration. L'affaire est réglée, Freud a rencontré l'enfant quelques temps, et il est guéri. Sauf que quelques années plus tard, le petit garçon est devenu grand, il est devenu directeur d'opéra, il effectue des mises en scène, et ses parents sont séparés, et il rencontre Freud au printemps 1922. Ils ont l'occasion de reparler de cette histoire, et l'enfant dit qu'il ne se souvient de rien du tout. Et qu'il ne se souvient évidemment pas d'une analyse, et que ça lui paraît d'ailleurs pas très juste. Il explique en revanche que le 7 janvier 1908, il a assisté à une chute de cheval. Mais ça, comme c'est très trivial, Freud ne veut pas en entendre parler. L'idée qu'un enfant ait pu être terrorisé par un cheval qui l'aurait vu tomber à ses pieds, quand vous êtes un petit garçon et que vous voyez, vous assistez à une chute de cheval qui glisse avec ses sabots ferrés sur le pavé mouillé de Vienne et que vous avez une tonne de chair qui vous arrive dessus et puis le timon qui explose et puis le bruit de l'animal qui essaie de se relever, etc. On peut imaginer que la scène puisse être traumatisante, tout simplement traumatisante pour un enfant et que l'enfant puisse avoir peur d'un cheval sans qu'il ait pour autant la crainte de la castration d'un père parce qu'il aurait désiré sexuellement s'unir avec sa propre mère. Et Freud s'en sort en disant que le fait que le petit Hans ne se souvienne pas est bien la preuve du refoulement. Et puisqu'il a refoulé très profondément, puisqu'il ne s'en souvient plus, c'est donc bien la preuve que le traumatisme a été celui-là. Deuxième cas réglé par Freud. Troisième cas, l'homme aura et la névrose de contrainte. Donc il s'agit pour le coup d'aborder la question des névroses de contrainte et de montrer que quand on en soigne une, on les soigne toutes et qu'il est compétent sur ce terrain-là aussi. Le texte en question s'appelle « Remarques sur un cas de névrose de contrainte ». Il date de 1909. Il renvoie à Ernst Lanzer, qui est le nom propre de ce fameux homme aura. Et dans le texte lui-même, Freud nous fait savoir que l'analyse a duré à peu près un an. C'est une citation, l'analyse a duré à peu près un an. En fait, il y a eu des notes qui ont été détruites. Mais ces notes n'ont pas été détruites pour tout le monde. Et il y a un cahier, une espèce de journal, qui permettent de savoir comment l'analyse a eu lieu et combien de temps elle a duré. Et elle a duré très exactement 3 mois et 20 jours. Et ce, sur 7 séances. Précaution d'usage, dès le départ de cette analyse, Freud fait savoir qu'il ne dira pas tout à cause de la curiosité des Viennois. On sent bien qu'il a eu déjà probablement des problèmes avec ses histoires de fuite concernant les cas particuliers, la trahison du secret professionnel. Donc il fait savoir qu'il ne dit pas tout. Mais s'il ne dit pas tout, c'est pour une raison bien simple, c'est que les gens veulent avoir des détails qu'ils n'ont pas à avoir. Mais en même temps, il nous dit qu'il ne peut pas pénétrer le mystère de la névrose complètement. C'est assez singulier parce qu'il y a des moments où, au fil de la plume, Freud est capable de nous dire que ça lui résiste et qu'il ne peut pas tout soigner, tout guérir ou tout comprendre. Mais il ajoute, c'est toujours comme ça dans la foulée chez Freud, c'est-à-dire quand il y a un moment où on se dit, tiens, il pourrait être un peu lucide, un peu humain, et montrer effectivement que parfois les choses peuvent lui résister. Et il ajoute que si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a des résistances du patient. Et ça consacrera la prochaine séance à ce que j'ai appelé le verrouillage sophistique. Vous verrez que la psychanalyse, ça marche tout le temps, et quand ça marche pas, ça marche quand même. Mais Freud nous dit qu'il a soigné et guéri, et il avait de toute façon besoin de ce cas-là, puisqu'il était question pour lui de l'exposer en public. C'est-à-dire qu'on est dans la perspective évangélique du personnage qui s'en vient dans un congrès. À l'époque, il s'agissait du congrès de psychanalyse de Salzbourg, le premier congrès international, 26 et 27 février 1908. Il est question pour lui d'exposer un cas, et de dire qu'il a résolu le cas, et enfin voilà comment une contre-vérité répétée plusieurs fois finit par devenir une vérité, et voilà comment on construit des légendes. On le sait, il n'avait rien préparé pour cette intervention du 26 et du 27 avril, le 19 avril, parce qu'il écrit une lettre à Jung, et que dans cette lettre à Jung, il nous dit très précisément qu'il n'a pas encore terminé. Il nous dit « Cela deviendra sans doute un mélange d'observations isolées et de communication générale se rattachant à un cas de névrose obsessionnelle ». Donc on voit un peu la méthode de Freud, j'ai eu l'occasion de vous en parler la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a un cas, on part d'un cas avec la vérité et la réalité d'un cas, et puis on ajoute d'autres cas, d'autres hypothèses, on construit de manière absolument fictive. Et comme quelqu'un qui partirait d'une aventure vraie pour réaliser un roman, eh bien, ou une nouvelle, eh bien, Freud réalise des nouvelles qui sont censées nous montrer qu'il est capable de réduire une phobie, de réduire une névrose ou une paranoïa ou je ne sais quoi. Dans ce congrès, une quarantaine d'invités sont venus de 6 pays et ils ont assisté à l'intervention. Et la géographie nous dit que Freud a tenu en haleine pendant 5 heures la totalité de son public. Et on voit bien, on assiste à quelque chose qui ressemble à une vie de Jésus. Vous auriez un personnage extraordinaire. Quelques jours avant, il n'a encore rien fait. Il arrive, il a tout fait. Et puis, devant des gens qui viennent de partout, eh bien, il raconte des choses extraordinaires. Et pendant 5 heures, on écoute l'histoire de l'homme aura. Alors l'homme aura, c'est un juriste brillant qui a 29 ans, intelligent, cultivé. C'est lui qui porte à la connaissance de Freud cette phrase de Nietzsche dans laquelle Nietzsche dit que, en matière de mémoire, la plupart du temps, on croit se souvenir et puis on dit « mais j'ai fait ça » et puis on n'est pas très sûr de l'avoir fait. Et puis quand on a fait quelque chose qui n'était pas bien, eh bien il y a le principe du déni et Freud nous fait savoir qu'il y a toujours un conflit entre la mémoire et l'orgueil et que c'est toujours la mémoire qui perd quand l'orgueil est là. C'est-à-dire que jamais on ne dira qu'on a commis quelque chose de pas correct, de pas net, de pas très bien. Et l'orgueil nous interdit de dire qu'on s'est trompé. Donc à ce moment-là, on falsifie la mémoire et on invente du déni, enfin on produit du déni. Et bien la production du déni, telle qu'elle est développée chez Freud, a pour source cette idée, enfin du moins elle a été pensée déjà, je dirais, par Nietzsche. Et c'est l'homme aura qui avait donné cette phrase de Nietzsche à Freud. Ses symptômes sont particuliers. Lui, il a le désir de se faire souffrir, lui et les autres, de tuer tel ou tel, mais également de se trancher la gorge avec un rasoir. Il a peur de perdre son père ou la femme qu'il aime. Et puis, il rapporte comme toujours, une fessée qui lui aurait été infligée dans son enfance, assez probablement en rapport avec un forfait sexuel. Et les forfaits sexuels chez Freud, c'est toujours très simple, c'est toujours la masturbation. Vous vous masturbez, les parents vous découvrent et les parents vous menacent de castration. C'est universel, nous dit-il. Il a l'occasion également de nous dire que cet homme lui fait savoir qu'il a eu une première aventure amoureuse avec une jeune fille dont le nom de famille est Robert. Comme c'est un patronyme masculin, vous voyez ce que ça peut induire comme problème chez un individu. Et puis, le cas en question rapporte une torture qui donne son titre à ce cas-là. Et il nous dit effectivement qu'il a entendu raconter cette histoire, qu'il y avait des tortures qui consistaient à enfermer des rats dans un pot de chambre et à accrocher le pot de chambre aux fesses du supplicié. Et évidemment, on imagine que ce rat finit par pénétrer le rectum du supplicié. Donc, principe de pensée symbolique, si vous avez un rat, c'est pas un rat. Et si vous n'avez pas de rat et qu'il vous faut faire fonctionner votre interprétation, c'est pas compliqué. Un rat, c'est le pénis du père. Donc, Freud fait savoir que le problème de ce garçon, c'est le désir de se faire sodomiser par son propre père. Il soigne, il guérit, il nous parle d'un complet rétablissement de la personnalité, il nous parle également de la suppression de ses inhibitions. Alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas du tout. Il écrit à Jung toujours la correspondance dans laquelle la vérité se manifeste. Il fait savoir à Jung que Lanzer n'a pas réglé ses problèmes. Mais au congrès, il a raconté qu'il avait guéri, qu'il avait soigné et que Lanzer n'avait plus de problème. Lanzer est mort au début de la guerre 14-18. Il n'y avait plus de traces, plus de possibilité d'inquiéter le personnage, lui demander comment les choses s'étaient passées ou de voir s'il y a eu une évolution ou pas d'évolution. Donc l'affaire est réglée. Freud a soigné, Freud a guéri. Même si au détour d'une correspondance, on s'aperçoit qu'il n'a pas guéri du tout et que le personnage reste avec ses propres problèmes. Quatrième cas, le président Schreber. Alors lui, il est censé illustrer la question de la paranoïa. Et le texte qui explique le cas du président Schreber s'intitule « Remarques psychanalytiques sur un cas de paranoïa décrit sous forme autobiographique ». Il date de 1911. Je ne peux pas vous dire combien de temps a duré l'analyse puisqu'il n'a jamais rencontré le président Schreber. Et qu'il s'est contenté de travailler sur un ouvrage publié par le président Schreber qui s'appelle « Mémoire d'un névropathe » et qui était paru en 1903. On ne peut pas mieux dire qu'on n'a pas le souci du réel, qu'on n'a pas le souci du corps, qu'on n'a pas le souci de rencontrer les gens, qu'on n'a pas le souci de leur parler, qu'on n'a pas le souci de les justement, même de prendre le prétexte de les allonger, de les écouter pour fabriquer son cas, mais que des mémoires peuvent suffire d'un volume publié par un personnage qui se présente lui-même comme un névropathe. À Eduardo Weiss, dont on aura l'occasion de reparler quand je vous signalerai les sympathies mussoliniennes de Freud, Freud écrit, vous voyez guillemets, « Seuls peu de malades sont dignes des efforts que nous leur consacrons, si bien que notre position ne doit pas être thérapeutique, mais que nous devons nous estimer heureux d'avoir, dans chaque cas, appris quelque chose. » Donc, on voit bien que le souci de Freud n'est pas de guérir des individus, de se soucier de la pathologie d'un être, de considérer la chair souffrante de tel ou tel individu. Son souci, c'est d'écrire et d'écrire des cas en faisant savoir qu'il les soigne. Une espèce de thaumaturgie généralisée. Il est un thaumaturge, c'est-à-dire il est un faiseur de miracles. Les gens sont malades, souffrent de quelque chose, s'allongent sur son divan. Il retrouve toujours des histoires de fellation, de masturbation, de castration, de désir de coucher avec son père ou avec sa mère, de désir d'avoir des enfants de son père, ou etc., ou de donner des enfants à sa mère. Enfin, ce sont toujours les mêmes petites histoires qui lui permettent de résoudre théoriquement le problème et de faire savoir que le problème étant celui-ci, la conscientisation du traumatisme, c'est-à-dire faire surgir à la conscience l'idée que ce qui traumatise, c'est ça et pas autre chose, Freud nous dit, voilà, conscientisation, évaporation des symptômes, guérison et les individus continuent leur existence dans le bonheur et dans la joie. Donc pas de désir de rencontrer le président Schreber, pas de désir de savoir s'il est vivant ou pas, s'il est encore vivant ou non, et il écrit, par exemple, dans ce cas, « Il est possible que le docteur Schreber vive encore aujourd'hui et qu'il soit retiré si loin du système délirant incarné par lui en 1903 et qu'il ressente comme pénible ses remarques sur son livre. » De fait, au moment où il exhibe le cas Schreber sur la place publique, le président vient de mourir. Il est mort le 14 avril 1901 et le texte était paru l'été 1911. Ce texte a été lu, une fois encore, au Congrès international de psychanalyse de Weimar, 22 septembre 1911, c'est-à-dire qu'il s'agit pour Freud de faire savoir qu'il a soigné, qu'il a guéri, comment il s'y est pris pour résoudre tel cas, et de faire savoir aux disciples qui sont là comment on s'y prend. Freud fait savoir que dans le texte même du président Schreber, Schreber dit que lui, il va dire des choses et que ces choses concernent un certain nombre de personnes, mais qu'il n'en a rien à faire. Et Freud dit, bah alors, puisque Schreber le dit lui-même, je vois pourquoi, moi, je me l'interdirais. Sauf qu'il est dans un asile psychiatrique, Schreber, et que l'idée que Freud puisse s'appuyer sur les dires de quelqu'un qui est réellement paranoïaque et qui se trouve enfermé dans un hôpital psychiatrique, ça paraît singulier. Schreber est un président de cour d'appel assez brillant, juriste renommé, qui, battu aux élections, a sombré dans la folie. Et il passe plusieurs semaines en hôpital psychiatrique, retrouve une espèce d'équilibre, et puis rechute, et il sera enfermé pendant 9 ans. Pendant ces 9 années, il va rédiger donc les mémoires d'un névropathe, truc assez fumeux, assez extravagant, une théorie de l'univers qui est appuyée sur une théologie extravagante. Pour celles et ceux qui se souviendraient du cours que j'ai pu faire sur Fourier, on a quelque chose qui ressemble à ça, donc des choses assez déconnantes, pour le dire dans un mot tout simple. Il nous dit qu'une mission lui aurait été donnée pour sauver l'humanité, mais qu'il lui aurait fallu pour ça changer de sexe et pour rendre à l'humanité sa félicité perdue. Donc voilà, et puis vous consacrez un certain nombre de pages à démontrer que tout ça est juste et vrai, etc. Les symptômes du président Schreber, il craint d'être battu, il souffre d'angoisse, il est victime d'hallucinations. Et c'est assez singulier de voir que Freud s'intéresse à cette question de la paranoïa, c'est-à-dire de l'idée qu'on serait poursuivi par des individus qui nous en voudraient, mais poursuivi faussement, parce qu'on n'est pas poursuivi faussement. Le paranoïaque est celui qui imagine qu'on lui en veut, et dans une logique de fausse causalité, qui lui permet toujours d'incriminer quelqu'un qui n'est pour rien à ce qui lui arrive. Et c'est le moment, très précisément, d'où l'intérêt de croiser biographie, autobiographie, écriture et production d'une pensée. C'est le moment où Freud se fâche avec Jung et avec Adler. Il estime que Jung lui fait des enfants dans le dos, Adler également, qu'on lui en veut et que ces deux-là sont des méchants, qui, etc., etc. C'est-à-dire, Freud est vraiment dans une logique paranoïaque. Et au moment où il subit lui-même les affres de la paranoïa, eh bien, il prétend analyser la paranoïa du président Schreber. Il transforme le président en paranoïaque homosexuel. C'est complètement sans fondement, si je puis me permettre l'expression. Je suis pas sûr que le mot convienne, mais sans raison d'être, on dira. Et il nous dit que ce livre est une espèce de grande quête d'amour d'un fils pour son père, avec une équivalence toute simple. C'est-à-dire que Schreber est obsédé par le soleil c'est le père. Donc évidemment, si vous avez une espèce de fantasme iocentrique, eh bien c'est parce que vous avez des désirs d'aimer votre père ou d'être aimé par lui. Alors je vous passe les détails, mais on est toujours dans des logiques d'onanisme, de castration, d'ambivalence à l'endroit du père. Et Freud fait savoir que le problème du président Schreber, c'est qu'il refoule l'interdit d'une relation incestueuse et homosexuelle avec son propre père. Et le refoulement du désir d'inceste, on dira, enfin le désir du fils de coucher avec son propre père, génère toute cette pathologie, tous ces symptômes. Il suffirait, donc, nous dit Freud, qu'il puisse passer à l'acte pour être guéri. Et bon, c'est difficile de passer à l'acte dans ces cas-là. Freud n'a pas du tout le souci de savoir ce qu'est le contexte existentiel du personnage. Jamais. Voilà pourquoi des gens comme Reich, des gens comme Marcuse ou Eric Fromm ou tout le freudo-marxisme va effectuer une révolution considérable en faisant savoir que si inconscient il y a, l'inconscient il est dans un corps et ce corps il est dans une histoire, dans un temps particulier, et qu'on a un père ou une mère qui sont des parents réels et qu'on n'est pas seulement dans l'idée du père ou dans l'idée de la mère, avec l'idée que la mère serait désirable sexuellement et le père à supprimer parce qu'il serait problématique et qu'on verrait tout sous l'angle édipien. On a parfois des pères aimants, on a parfois des mères aimantes, parfois c'est l'inverse ou c'est le contraire. Et il m'aurait semblé plus intéressant d'aborder tel ou tel cas en allant voir quel était le père véritablement de Schreber pour essayer de comprendre l'aventure de Schreber. Parce qu'il y a dans son livre toute une série de machines effrayantes qui sont des machines qui sont autant de machines à corseter les corps et à maintenir la tête droite. Et Freud ne sait pas que le père de Schreber était un médecin hygiéniste assez célèbre qui avait fondé une méthode, une médecine, une thérapie médicale assez particulière et qu'il avait écrit un best-seller qui s'appelait « Gymnastique médicale de chambre » et qu'il avait créé des instruments de contention, de contorsion des corps et qu'il essayait ces instruments sur ses propres enfants. Donc on peut imaginer que le traumatisme, plutôt que de se trouver rabattu sur des histoires édipiennes, sur des histoires de castration, sur des histoires de désir de coucher avec son père ou de se faire sodomiser par son géniteur, simplement expliquer effectivement qu'un petit garçon peut être tout bêtement traumatisé par des machines que son père aura voulu lui infliger pour les essayer avant de les mettre éventuellement dans le commerce. Comme avec le petit Hans, l'idée qu'un traumatisme puisse arriver simplement parce qu'on aura assisté à un accident de cheval, l'idée qu'on puisse être obsédé par des machines à rectifier les corps, eh bien, chez Freud, ça ne peut pas s'enraciner dans une vérité existentielle d'un être, il faut que ça s'enracine dans une espèce de fiction, la fiction qui est la sienne. Donc toujours la fameuse fiction édipienne. Cinquième cas, l'homme au loup. Alors il est peut-être le plus célèbre, celui qui a fait le plus pour la réputation de Freud. Le texte s'intitule « À partir de l'histoire d'une névrose infantile ». Le personnage s'appelle Sergueï Pankaïev et la durée de l'analyse, c'est 4 ans. Mais c'est une analyse avec Freud. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi et comment. Avec Freud, c'est de février 1910 à juillet 1914, puisque Freud prétend qu'en 14, il a réglé le problème et que Pankaïev s'est trouvé définitivement soigné et guéri. Souvenez-vous des tarifs. Je vous ai parlé des séances en vous disant qu'une séance chez Freud, c'était l'équivalent de 450 euros par jour, enfin par séance. Et qu'il y avait une séance par jour, en dehors des week-ends et fêtes, et en dehors du mois de vacances de Sigmund Freud. C'est-à-dire que les 4 années de la psychanalyse avec Freud, parce que ça va durer jusqu'à la fin de son existence, lui auront coûté 500 000 euros, pour information. Pankaïev est un personnage qui a parlé. Il y a eu un entretien avec une journaliste qui, en 1974, je crois, a cherché à savoir qui il était, comment ça s'était passé, pour le faire témoigner en lui disant « Vous êtes le fameux homme au loup, on aimerait bien savoir un peu comment les choses se sont passées. » Et à l'époque, Pankaïev disait, citation, « L'inconvénient de la psychanalyse, c'est sûrement qu'elle ne peut entrer en ligne de compte que pour les riches. Peu de gens peuvent se payer un traitement pareil, en effet. » Il arrive donc en 1910 au cabinet de Freud, il a 23 ans. C'est un aristocrate russe qui vit luxueusement, qui est accompagné d'une domesticité importante et qui, en Russie, a déjà rencontré un certain nombre de psychiatres célèbres et renommés. Ses symptômes sont simples, d'une certaine manière, je les simplifie aussi, puisque le cas fait une centaine de pages. Donc c'est vraiment un roman, le Moulou. Phobie d'animaux, idées obsessionnelles, crise d'angoisse, goût érotique scabreux, nous dit Freud. Il nous fait savoir que sa sœur l'aurait initié sexuellement à 3 ans et que, comme toujours, se masturbant devant sa nourrice, elle l'aurait menacé de castration. Donc, puisque il se touche le oui-oui, eh bien, et que la nourrice fait savoir qu'on va lui couper le oui-oui, eh bien, il se réfugie dans la régression au stade sadique anal et masochiste, nous dit Freud. Souvenez-vous, quand je vous ai parlé de sa théorie des stades, il nous fait savoir qu'on démarre dans l'existence avec stade oral, anal, génital, phallique, etc. Et qu'il y avait une espèce de progression qui nous conduisait normalement à devenir hétérosexuel. Donc, traumatisme dans une période qui correspond au stade sadique anal. Donc, le personnage vit sa régression sur le stade sadique anal. Alors, il nous raconte un certain nombre de choses. Le petit garçon arrachait des ailes de papillon, cherchait à se faire battre par son propre père. Par la suite, il est tombé régulièrement amoureux de femmes de basse condition. Et puis, ce qu'il adorait, c'était voir le popotin de la femme de ménage à 4 pattes quand elle fait le ménage. Il trouvait ça extraordinaire. Il fait un rêve, et c'est là qu'on rentre dans le cœur de l'aventure de l'homme au loup, un rêve célèbre pour l'histoire de la psychanalyse. Et ce rêve, il a été fait donc 19 ans en amont. Et voilà ce que raconte Pankaïev. Il a 4 ans, il est allongé dans son lit, la fenêtre s'ouvre, et il voit dans un arbre, par la fenêtre, alors 6 ou 7 loups blancs. C'est assez intéressant parce que il se fait qu'il est dessinateur, il est peintre amateur, Pankaïev, et qu'il a dessiné la scène. Et il dessine la scène, mais les 6 ou 7 loups sont 5. C'est assez singulier de voir l'obsession. Vous avez parlé de la numérologie chez Freud. 6 ou 7, ça a de l'importance pour Freud. Il va vous expliquer pourquoi c'est 6 ou 7 et pas 2 ou 3. Et pourquoi pas non plus 5. Alors que c'est 5. Le dessin le dit. Alors, ce sont des loups, nous dit-il, qui ressemblent à des renards ou à des chiens de berger. Mais l'homme aux chiens de berger, ça aurait fait peut-être moins... Donc c'est l'homme aux loups. Et ils sont assis sur des branches, et la scène se passe en hiver, dit Pankaïev. Il a peur d'être dévoré, il se réveille, il crie, il pleure. Et voilà l'histoire racontée. Condensation, déplacement, présentation. Donc évidemment, il va bien falloir que tout ce matériel du rêve signifie quelque chose de particulier. Donc je me suis contenté, parce que là vous avez un délire complet, mais de vous proposer les équivalences. Freud nous fait savoir que le loup, c'est un mouton, normal, par la blancheur qu'ils ont en commun. Il nous fait savoir que l'immobilité des loups, c'est le mouvement des parents. Il nous fait savoir que l'activité des loups, c'est la passivité. Que être regardé, c'est regarder. Qu'un arbre, c'est un sapin de Noël. Que les loups sont des cadeaux. Que le loup blanc, ce sont aussi les sous-vêtements des parents, parce qu'ils sont blancs. Donc le loup est un sous-vêtement, mais c'est aussi... Enfin, vous suivez, hein. C'est aussi un professeur qui s'appelle Wolf, normal, hein. Wolf, loup, etc. Vous avez une queue touffue. Que signifie cette queue touffue? Une absence de queue. Vous avez une fenêtre ouverte, c'est l'attente sexuelle. Une scène de Noël, c'est une scène estivale. Le blanc, c'est la mort. Il y a un moment où il parle d'autre chose, il parle de chenilles coupées en morceaux, ce sont des enfants tronçonnés. Et il y a un moment où le père donne de l'argent à sa fille, c'est un géniteur qui fait le cadeau d'un enfant. Saint-Cloud, pourquoi Saint-Cloud ? Parce que 5 heures du matin. Il y a un mouvement d'aile de papillon, c'est le jeu de jambes d'une femme pendant l'acte sexuel. Le bout des ailes, c'est le symbole génital. L'aile de papillon, c'est une poire, mais c'est aussi le nom de la bonne. Peut-être que la bonne est une poire, mais bon. Uriner sur un plancher, ça suppose une tentative de séduction. La peur du papillon, c'est la peur de la castration. La gonorrhée, c'est la castration. Enfin voilà. Il y a une peur d'être mangé par les loups, nous dit Serge Pankejeff. Eh bien, Freud dit, citation, la peur, c'est la suivante, être coïté par le père. Ça recommence. Donc, c'est toujours ça. Donc, vous avez peur d'être mangé par les loups, vous avez juste peur que votre père vous sodomise. Alors, Freud dit, voilà, à partir de ça, et là, je m'appuie sur le texte dont je vous ai dit qu'il était très important, ce texte qui s'appelait « La négation ». 1925, si je me souviens bien. Freud fait savoir que quand on dit non, c'est qu'on dit oui, quand on dit oui, c'est qu'on dit non. Donc à partir de ce moment-là, en effet, si le matériel du rêve n'est pas le matériel du rêve, et si le contenu du rêve, si vous avez un loup et que le loup ne peut pas être un loup, et si l'arbre est un arbre mais ça n'est pas un arbre, et si le fait d'avoir une fenêtre ouverte, ça n'est pas une fenêtre ouverte, mais qu'à chaque fois il vous faut projeter vos propres fantasmes, à l'évidence vous pouvez obtenir ce genre d'interprétation. Voici l'interprétation du rêve donnée par Freud. Freud nous dit... Cet enfant rêvait quand il avait 1 an et demi, et il faisait la sieste dans la chambre de ses parents, à 5 heures de l'après-midi, l'été, donc normal. Citation. « Lorsqu'il se réveilla, il fut témoin d'un coitus atergo. » Vous savez, un truc par derrière, c'est... Il y a toujours du latin chez Freud quand on n'arrive pas à dire clairement les choses, donc témoin d'un coitus atergo. Donc, hein, vous voyez. « 3 fois répété, il a pu voir l'orgasme génital de la... » L'organe génital, c'est pas forcément la même chose, mais c'est un problème de lunettes, là. « L'organe génital de la mère... » comme le membre du père, ait compris le processus ainsi que sa signification. Normal, il a 1 an et demi, il s'est compté jusqu'à 3, il comprend qu'il s'agit d'un acte sexuel, et 19 ans plus tard, il se souvient qu'effectivement, 3 fois par derrière, papa, maman, pas la bonne, et lui. Freud comprend qu'on puisse douter. Il dit effectivement, peut-être que ça vous paraît étonnant qu'à 1 an et demi, on puisse voir, se souvenir, comprendre et garder mémoire de tout ça. Alors à ce moment, il prie le lecteur, la phrase est extraordinaire, de croire provisoirement à la réalité de cette scène. Donc je vous la raconte, mais croyez-moi, je vais vous en donner la preuve un petit peu plus loin. Ça, il le dit, page 36 du volume 13, dans lequel on trouve la narration du fameux cas de l'homme au loup. Et c'est page 94 qu'on découvre le détail, et on n'a plus besoin de croire provisoirement. Freud nous dit maintenant, je vais vous le prouver. Je vais vous prouver qu'à 1 an et demi, il a vu ça, puisque, ouvrez les guillemets, citation, « les scènes d'observation du commerce sexuel parental, de séduction dans l'enfance et de menaces de castration prononcées sont indubitablement possession héritée, héritage phylogénétique, mais elles peuvent tout aussi bien être acquisition de l'expérience de la vie personnelle. » Ça veut dire, les hypothèses sont très simples, hein, ou vous avez vu, ou vous n'avez pas vu. Si vous avez vu, ça a eu lieu. Si vous n'avez pas vu, ça a eu lieu quand même. Parce que si vous avez vu, vous avez eu ça avec votre œil, l'œil de l'ophtalmo, hein, c'est-à-dire avec tout bêtement la paire d'yeux qui vous sert au quotidien. Mais si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez vu avec votre œil phylogénétique. Et dans tous les cas, vous avez vu. Donc si à 1 an et demi, vous n'avez pas vu ça, votre inconscient de toute façon l'a vu de manière phylogénétique, ça traîne depuis une éternité. Et effectivement, comme ça a eu lieu et que c'est une espèce de scène primitive, la scène de copulation des parents, eh bien, vous l'avez vu, et si vous n'avez pas vu, vous l'avez vu quand même. Donc difficile effectivement de se sortir d'une pareille aventure. Comment peut-on soigner Pankejeff ? Freud nous dit « c'est seulement s'il peut se substituer à la femme, remplacer la mère pour se laisser satisfaire par le père et lui mettre au monde un enfant, que la maladie sera écartée de lui ». On comprend que si c'est ça la technique, il est resté longtemps malade. Parce que effectivement, si les choses doivent se passer comme ça... Pourtant, même volume, 13, page 118, Freud parle de rétablissement. Donc la chose est claire, rétablissement. Ça veut dire que l'homme au loup n'allait pas bien, et vous voyez un petit peu, et il a été rétabli et dans les dates données par Freud. Il se fait que cet homme, Sergueï Pankejeff, est interrogé par la journaliste dont je vous parlais tout à l'heure à l'âge de 87 ans. Et cette journaliste lui dit « Alors vous en pensez quoi de cette fameuse histoire de l'homme au loup ?» puisqu'elle a fait la réfutation de Freud à cette époque-là. Et Pankejeff dit « C'est quand même plus ou moins tiré par les cheveux. » Page 70. Il affirme ensuite que pendant toute sa vie, il a vécu avec des dépressions. qu'à son âge, il fumait 30 cigarettes par jour. Il nous dit également, ouvrez les guillemets, « Je souffre d'un certain mal intestinal que j'ai attrapé malheureusement à cause de la psychanalyse. » Il y a des textes théoriques où Freud fait savoir que dès que vous entrez en analyse, la chimie, c'est fini. Les cachets, les médicaments, c'est terminé. Vous avez un livre qui a beaucoup fait pour la réputation de la légende, Les mots pour le dire, Marie Cardinal, où on vous raconte qu'effectivement, une femme a des saignements, elle saigne dans le métro, etc. Et puis, elle va voir le psy qui lui dit « Balancez-moi tous ces médicaments, finis les médicaments. Moi, je vous soigne avec la parole, donc les médicaments, c'est terminé. » Donc, la théorie freudienne, elle est claire, pas de médicaments. Eh bien, page 81, dans l'entretien, Pankejeff dit que Freud prescrivait des médicaments. Freud prescrivait des médicaments. Ça veut dire que la psychanalyse qui est censée tout guérir par l'échange de paroles, eh bien, de temps en temps, il faut quand même lui ajouter quelques médicaments, qui peuvent d'ailleurs vous détraquer les intestins. À 87 ans, Pankejeff nous fait savoir qu'il est toujours en traitement. De sorte que quand on fait la biographie de ce personnage, on découvre que, guéri par Freud en 1918, il a quand même été suivi par plus de 10 psychanalystes, jusqu'à 1979, date de sa mort à l'âge de 92 ans. Je conclurai cette séance sur deux phrases de Pankejeff. La première, il nous dit « Toute l'affaire me fait l'effet d'une catastrophe. Je me trouve dans le même état qu'avant d'entrer en traitement avec Freud. » Et puis cette deuxième phrase, « Au lieu de me faire du bien, les psychanalystes m'ont fait du mal. » Voilà pour ce soir.